faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Oui, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Mais est-ce que c'est une gueule d'atmosphère ?
Voilà la musique !
Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot.
Là, il a marqué un point.
C'est de dire si dans ma vie, j'ai entendu des conneries. Mais des comme ça, jamais, jamais, jamais.
À l'affiche ce soir, c'est l'histoire d'un esthète du tennis, un joueur élégant, raffiné et parfois énigmatique, sorte de John McEnroe taiseux. Ce soir, c'est le récit d'un des plus beaux palmarès du tennis français, c'est le destin de Guy Forget. Entre Casablanca et la Porte d'Auteuil, voici la 37e étape de notre grand safari au pays de la culture de masse.
Il nous prend pour des bourris.
Oui, 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 ça papa.
Ça, c'est un excellent burger.
Winter is coming.
Le week-end prochain débutera l'édition 2019 du tournoi de Roland-Garros, rendez-vous incontournable dans la chronologie médiatique du sport, vitrine mondiale dirigée depuis 2016 par Guy Forget, oui, triple vainqueur de la Coupe Davis, deux fois en tant que joueur et une fois en tant qu'entraîneur. Alors que compte-t-il insuffler de sa personnalité dans cette étape parisienne du Grand Chelem ? Eh bien ce soir, pour décrocher quelques réponses, je suis ravi de sa présence au micro d'Inter. Guy Forget, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue. Et puis à vos côtés, un passionné de tennis, directeur de la publication de Tennis Magazine, Benjamin Balinter, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et bienvenue également.
Merci.
Juste avant le tennis parisien, nous accueillerons le festivalier cannois, le Dominique Besnéard. Dominique, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, qui est à l'affiche ce soir ?
L'actrice que surnommait Fellini Pipistrello. Oui, ça veut dire la chauve-souris. Anouk Aimée, elle a pourtant rien d'une chauve-souris parce qu'à mon avis, elle est tout le temps habillée en noir.
Ça doit être ça. Et enfin, juste avant 19h, bien sûr, le Give Me Five signé Joy Raffin. Salut Joy.
Bonsoir Colin, bonsoir à tous.
Alors, quel est le programme ?
Eh bien, des footballeurs dans un dictionnaire, un taureau sur une pelouse et un ballon dans un musée.
Très bien, à tout à l'heure. Surtout, n'ayez pas peur, soyez les bienvenus dans l'œil du tigre.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors ce soir on commence avec le festival de Cannes où tout à l'heure, en fin de soirée au Grand Théâtre Lumière sera projeté pour la première fois le nouveau documentaire d'Asif Kapadia, film consacré au destin de Maradona, le gamin au pied d'or, un film qui a l'air extraordinaire. C'est le retour de Diego sur la croisette, il y était déjà venu avec Kusturica, voici le flashback.
Diego Armando Maradona, depuis 4 ans qu'il joue pour l'équipe de Naples, c'est toujours la fièvre, le délire. Nino de Oro, l'enfant en or, comme on l'appelle ici, ne pénètre sur le stade qu'encadré par des carabiniers pour échapper à l'enthousiasme des 100 000 tifosi. Dans une des villes les plus pauvres d'Italie, où un habitant sur trois est au chômage, le joueur argentin a été racheté aux Espagnols en juillet 84, 80 millions de francs. Mais ici, personne ne le regrette. Depuis qu'il est en Italie, Diego a marqué 110 buts. Naples est devenu champion d'Italie et lui, champion du monde.
On pensait avoir tout vu à Cannes, mais ça c'est une première. Maradona, un dieu du football qui jongle avec un autre géant du cinéma, cette fois Emir Kusturica. Cette fois en conférence de presse, il n'a pas dribblé les journalistes. Mais pourquoi a-t-il accepté un documentaire sur sa vie, lui qui a été traîné dans la boue dans des livres et des reportages ?
Personne à part Emir Kusturica n'a réussi à me percer à jour et à raconter toute ma vie. Les bons moments, les moments les plus durs, le passé, le présent.
Été 86, Maradona gagne la Coupe du Monde, mais c'est ce but en quart de finale qui restera à tout jamais. Non seulement c'est l'un des plus beaux de l'histoire du football, mais c'est aussi une vengeance contre l'Angleterre suite à la guerre des Malouines. Après, il y a la déchéance. Diego a jonglé avec la drogue, avec la mort.
Avec la mort, oui, dieu endiablé, héros et arnaqueur, quand on aime Diego Maradona, on l'aime entièrement. Ce soir, sur la croisette, donc, sera présenté ce film très attendu du cinéaste britannique Asif Kapadia. On reste à Cannes maintenant avec le Dominique Besnéard et sa star du soir.
C'est fou la vie, hein.
Ce soir, Dominique, une tendance croisette.
Le Festival de Cannes 2019 sera empreint du charme mystérieux d'Anouk Aimée. L'actrice mythique revient sur la croisette pour présenter les plus belles années d'une vie. La suite d'un homme et d'une femme, plus de 50 ans après. Ce film, qui reste le plus grand succès du cinéaste Claude Lelouch, a obtenu la Palme d'Or en 1966 et lancé la carrière internationale d'Anouk. Grâce à lui, elle a été récompensée d'un Golden Globe et d'une nomination à l'Oscar.
Anouk Aimée, une actrice que tu connais très bien, Dominique.
Oui, ça pourrait être très facile pour moi de parler d'Anouk Aimée, dont j'ai été l'agent et à laquelle j'ai consacré un documentaire, La beauté du geste. Et bien sûr, il n'en est rien. Anouk m'apparaît toujours comme l'incarnation d'un félin, à la fois présente et indépendante, trop désabusée pour sortir ses griffes, car elle craint l'abandon et désire éternellement être aimée. De son vrai nom, Françoise Nicole Dreyfus, Anouk Aimée est la fille d'un couple de comédiens, Henri Dreyfus, muré à la scène, et Geneviève Soria. Lors de la débâcle de 1940, ses parents quittent Paris pour s'installer à Barbezieux, en Charente. D'origine juive, la jeune Française est alors baptisée catholique pour échapper au port de l'Étoile jaune. À la Libération, elle poursuit ses études, mais le destin s'en mêle et fait bientôt basculer son existence. En 1946, alors qu'elle se promène avec sa mère à Paris, elle est abordée par le cinéaste Henri Calef, qui l'engage pour un petit rôle dans La maison sous la mer.
Et puis Dominique, son premier grand rôle est une occasion manquée.
Elle est dirigée par Marcel Carné dans La fleur de l'âge en 1947, mais le film ne sera jamais achevé. Heureusement, Jacques Prévert lui offre une deuxième première chance avec Les Amants de Vérone et lui donne son nom, Anouk Aimée. Le film fait d'elle une vedette. La suite est importante. Le rideau cramoisi et Les mauvaises rencontres d'Alexandre Astruc, Montparnasse 19 de Jacques Becker, La tête contre les murs de Franju imposaient une image presque immatérielle, celle d'un amour idéal, fragile et abîmé. Mais la Dolce Vita de Fellini et Lola de Jacques Demy révèlent une Anouk Aimée bien différente. Elle y incarne aussi bien la sensualité blessée que la confiance aveugle dans le destin.
Et les années qui suivent la mènent en Italie.
Où elle rejoint Fellini pour jouer l'épouse névrosée de Mastroianni dans 8 et demi. Après Un soir, un train d'André Delvaux, sa carrière s'exporte aux États-Unis avec Sidney Lumet et Georges Cukor. Elle y retrouve également Jacques Demy pour Model Shop et renoue avec son personnage de Lola, cette fois vieillie et désabusée. Dans les années 80, ce sont finalement les cinéastes italiens qui lui offrent ses meilleurs rôles. Bertolucci et Bellocchio, grâce auxquels elle obtient le prix de la meilleure actrice à Cannes pour Le saut dans le vide. Si elle tourne le plus souvent avec ses réalisateurs de prédilection, Claude Lelouch et Elie Chouraki, il faut néanmoins noter son émouvante échappée dans La petite prairie au boulot de Marceline Loridan en 2003, où elle incarne une femme qui revient au camp de concentration de Birkenau 50 ans plus tard.
Et pour finir, Dominique, quelques mots.
Des mots que j'emprunte à Fellini. C'est une star. Tout simplement parce qu'elle est d'une grande photogénie, d'une grande suggestion. Elle appartient au grand masque du cinéma avec ce visage qui a la même sensualité intrigante que celle de Garbo, Dietrich ou Crawford. Ces grandes reines mystérieuses, ces prêtresses de la féminité, Anouk Aimée représente ce type de femme qui vous trouble à en mourir.
Eh bien voici Anouk Aimée qui évoque sa passion d'actrice.
Ça va pas du tout quand j'essaie de réunir les choses, de dire je voudrais faire ce rôle avec... Ça marche pas. C'est peut-être pas bien, mais j'ai envie qu'on vienne vers moi, c'est vrai. Qu'on me montre, on a envie de travailler. J'ai pas tellement envie de dire je veux travailler avec vous. Je crois, je ne sais pas. Mais j'ai essayé. Chaque fois qu'il y a eu un sujet qui me plaisait, que j'ai essayé de faire, ça n'a pas marché. Je laisse les choses venir à moi. J'ai toujours fait ça. Avec les années qui passent, c'est plus difficile parce que les choses viennent moins vers vous. Mais je crois que c'est comme ça, mon rapport doit être comme ça, je crois. J'ai toujours fait les choses un peu en me promenant, c'est peut-être pas bien d'ailleurs. Tout a été comme ça, j'ai jamais calculé, j'ai jamais fait d'efforts, je me suis jamais battue. C'est pas bien, hein, je croyais pas que je... Parce qu'il y a le revers de la médaille, je le paye d'une autre façon. Mais ça a toujours été un bien-être et mon luxe à moi, ça a toujours été de faire les choses que j'aime.
Anouk Aimée de retour à Cannes 50 ans plus tard, Dominique, après Un homme et une femme. Pour la suite, hein, Dominique, les plus belles années d'une vie.
Et j'ai eu l'occasion de voir le film et franchement, c'est extraordinaire. Comment Lelouch, en fin de compte, Un homme et une femme, sa vie est peut-être étroitement liée à ce film, à Anouk et à Jean-Louis Trintignant. Franchement, je vous conseille d'aller voir le film. Il est passé hier soir et c'est vraiment... C'est vraiment très fort.
Merci beaucoup Dominique Besnard. À la semaine prochaine. Voici maintenant l'histoire du dimanche soir. Il est né à Casablanca, au Maroc, le 4 janvier 1965. Il détient aujourd'hui l'un des plus beaux palmarès du tennis français. Tout au long de sa carrière, Guy Forget a été un joueur esthète, comme une réponse aux mots du grand écrivain américain Philip Ross, lorsqu'il dit que les utopistes n'ont pas le goût du carnaval. Oui, Forget n'a jamais eu le goût du show-off, utopiste du tennis, dont la discrétion et le caractère parfois énigmatique ont fini par le conduire jusqu'au sommet. Souvenez-vous, l'histoire commence à l'aube des années 80.
À l'occasion du National qui se déroule actuellement au Racing Club de France, nous avons rencontré Guy Forget, grand garçon encore frêle d'1m87. Il représente un grand espoir du tennis français. Il est classé moins 30 et se trouve en tête de la deuxième série. C'est le 99e joueur mondial. Et comme beaucoup de garçons de son âge, il écoute les tubes du hit parade et aime bien aller au cinéma. Il est originaire de Marseille et sa mère, professeure de tennis, lui a mis une raquette entre les mains dès son plus jeune âge.
J'ai commencé le tennis assez tôt d'ailleurs, puisque mon père est professeur. Donc j'ai dû commencer peut-être vers 5 ans.
Est-ce que vous avez pour modèle les grands champions ?
Moi j'aime bien John McEnroe et Jimmy Connors.
Pourquoi vous les aimez bien ?
Je les aime bien parce que c'est deux gauchers, un peu comme moi d'ailleurs. Et qui pratique un jeu assez offensif.
Il a déjà à son actif un palmarès chargé, champion de France cadet en 1981. Cette année, à Roland-Garros, il a battu Nastase en 5-7 et a pris un set à Connors. À Cincinnati, il a battu John Alexander et Roscoe Tanner. Espérons que le contrat de 800 000 francs annuels que ce jeune joueur vient de signer chez McCormack ne lui tournera pas la tête.
Guy Forget, vous aviez 17 ans, vous aviez 17 ans, champion du monde junior et à l'aube d'une grande carrière du tennis français. Quel souvenir vous avez de cette période de votre vie, là, Guy Forget ?
À ce moment-là, c'était une période un petit peu folle parce que jeune, j'avais jamais imaginé pouvoir vivre du tennis, être professionnel et finalement, j'étais dans la catégorie de jeune puisque là, lorsque cette interview a eu lieu, j'avais 17 ans, j'étais première année junior et 6 mois plus tôt, je faisais des tournois français, locaux, régionaux. Alors, je marchais pas trop mal, mais j'avais jamais imaginé que 6 mois plus tard, je jouerais à Roland-Garros et contre les meilleurs joueurs du monde. Donc là, j'étais un peu dépassé par les événements, les médias, le contrat avec le groupe McCormack à l'époque qui me garantissait des contrats. Donc j'avais pas encore mon baccalauréat, donc c'était beaucoup d'émotions.
Assez fou. Ouais. Benjamin Bernater, vous êtes vous un passionné de tennis et par ailleurs directeur de la publication de Tennis Magazine qui sort un numéro spécial d'ailleurs là qui est sorti cette semaine, je crois, pour Roland Garros évidemment. Quel souvenir vous avez, Benjamin, vous de Guy Forget sur un terrain de tennis ?
Alors c'est très clair, 1986 contre Villas en 8e. J'ai eu la chance d'être au stade ce jour-là. Et très honnêtement,
c'est Roland Garros.
Mmh. Et Guy mène 2-7 à 1. Et on se dit tous, c'est bon, il va passer Guillermo Vilas et il va se retrouver en quart. Et puis bon, Guy connaît ça mieux que nous. Le match dure, tourne et finit 8-6 au 5e.
Ouais, une belle de match d'ailleurs.
Et on sort tous du stade dégoûtés. Mais ça reste un souvenir formidable. Le premier souvenir que j'ai de Guy Forget sur le court.
Et d'un point de vue global, quel type de joueur vous pourriez décrire ce Guy Forget ? Un joueur esthète, un joueur raffiné ?
Un style magnifique. Et
oui.
En effet, un service et un coup droit de plomb. L'avantage d'être gaucher, ce qui nous rendait tous jaloux, nous les droitiers, même s'il y a quelques droitiers qui ont pas mal performé sur le court.
Federer, Sampras.
Mais bon, à l'époque, il y avait Connors, McEnroe, Guy, puis plus tard Henry. Enfin, il y avait beaucoup de gauchers emblématiques.
Henry le comte, donc.
Henry le comte. Oui, oui. Pardon. voilà. Non, c'est vrai qu'il y avait un tennis merveilleux. Et puis, Guy avait cette force qui s'est bien développée ensuite d'être à la fois un grand joueur de simple et un grand joueur de double. Et il jouait les deux. Et moi, j'ai souvenir de Guy jouant avec Jacob Lasek, notamment.
En Suisse, avec
qui ils avaient gagné le Masters.
Ouais, le Masters ensemble.
Voilà. Et puis cette élégance, cette classe sur le court, ça faisait plaisir.
Ah, voilà des mots importants. Classe et élégance, qui vont bien Forget.
Et qui savait s'habiller. C'est pas toujours le cas.
Fait partie de l'élégance, et effectivement, de Guy Forget. Guy, j'ai vu que votre première victoire en tournoi, c'est Toulouse, 1986. Et alors, j'ai lu que votre père l'avait gagné en 66. Et que votre grand-père l'avait gagné en
46. C'est incroyable cette histoire.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu incroyable parce qu'à l'époque c'était bon pas un tournoi ATP mais c'était un gros tournoi français. Mon grand-père donc qui était d'Auche allait jouer à Toulouse ce tournoi puis c'est un des meilleurs joueurs du Sud-Ouest et effectivement l'a remporté lorsque mon père qui était encore plus fort que lui l'a remporté 20 ans plus tard. Lui mon père était première série. C'était effectivement anecdotique
c'est
et puis voilà et puis moi j'ai grâce à eux grâce à mon grand-père mon père je me suis mis au tennis et puis le clin d'œil était sympa
quel rapport votre grand-père vous avez quel rapport par exemple c'était passionné de tennis
c'était un passionné de tennis un passionné de musique aussi mon grand-père était musicien mon père aussi et le grand regret que j'ai d'ailleurs c'est que mon père ne m'a jamais initié au piano alors qu'il en jouait assez bien. Mais les deux étaient passionnés de tennis jusqu'à leurs dernières heures, lisaient la presse, regardaient la télévision et on jouait le plus tard possible.
Les années 80, Guy Forget, c'est aussi votre première sélection en équipe de France, 1983, Coupe Davis, France-URSS, enfin URSS-France. Et vous avez des souvenirs, je crois, assez particuliers de ce voyage. Et Vadim Borisov dans la chambre de Noah, vous vous souvenez de ça ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé?
Je ne sais plus exactement. Je sais qu'il fallait pas, il fallait attention à ce qu'on disait parce qu'on était écoutés, on était.
Donc on écrivait des petits papiers. C'est ça,
voilà.
Et vous, les t-shirts.
Alors on leur donnait des affaires, parce que nous, on avait beaucoup d'affaires qui étaient offertes. Et puis, c'était compliqué pour eux. Et ils étaient, on sentait qu'il y avait une envie de sortir, d'aller ailleurs, de s'émanciper, en quelque sorte. Et nous, qui étions très privilégiés, puisqu'on pouvait vivre correctement de notre activité, on voyageait quand on le pouvait, c'était pénible d'ailleurs à voir. C'était presque un petit peu douloureux. Alors heureusement après l'URSS, bien sûr, c'est ouverte. Mais c'était vraiment des années pénibles, je pense, pour tous ces joueurs.
Benjamin Malinter, les années 80, c'est la grande année de Yannick Noah aussi. Hein, c'est 83, ouais. Il gagne Roland Garros. Est-ce qu'on pourrait pas dire que Yannick a un peu aussi, dans un premier temps, écrasé les gens qui étaient autour de lui? C'est-à-dire que des jeunes gens comme Guy Forget, qui ont finalement eu un grand destin de tennis, ont eu du mal au départ à gérer cette figure du grand frère tutélaire qui était à la fois un peu exubérant, gagnant Roland Garros. Il a peut-être un peu contrarié le début de carrière de la jeune génération qui accompagnait Yannick Noah, non?
Je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'à la fois, ça devait être un petit peu lourd et un petit peu difficile parce que Yannick est un compétiteur formidable, donc il n'aimait pas trop perdre contre les joueurs français. On se souvient d'une partie avec Henri Lecomte à Roland Garros qui avait été un petit peu tendue. Mais en même temps, ça donnait, un élan et un espoir sur c'est possible et on peut le faire. Et ensuite, la façon dont il a transmis cette force, ça a été vraiment le grand frère du tennis français. Et son parcours en Coupe Davis, aussi bien en tant que joueur que capitaine, enfin Guy en parlera bien mille fois mieux que moi, a montré que je pense qu'au bout du compte c'était un gros avantage.
Mais Guy, un mot sur Yannick Noah?
Non, écoutez, franchement, moi qui ai beaucoup côtoyé Yannick à cette époque, encore aujourd'hui, mais toute notre ascension, elle est liée justement à sa performance. Même si on était au début admiratif et subjugué par ce qu'il était en train de produire, mais au-delà du tennis, la personnalité qu'il dégageait, il roulait en Ferrari, il sortait avec des top modèles. Bon, il avait 5 ans de plus que nous, donc, mais il était grand, il était beau, Théo, il était très physique. Nous qui étions, entre guillemets, des petits Français un peu frêles, ça nous paraissait inaccessible. Et Yannick a toujours eu cette générosité, je dirais, par rapport aux autres joueurs français, c'est que il nous conseillait, il nous encourageait. Et je crois que c'était une véritable locomotive. Et tous les résultats français qui ont suivi, d'ailleurs, hein, pas seulement les nôtres, mais ceux après des générations suivantes, je crois que on lui doit beaucoup parce qu'il a ouvert la voie, il nous a montré que c'était faisable. Il s'entraînait de manière extrêmement rigoureuse et très poussé, et on a essayé de limiter et de marcher dans ses traces. Donc l'anecdote avec Henri, c'était une période où leurs femmes respectives, enfin bon, c'était un petit peu complexe sur des petites guerres d'ego, mais
ok.
Mais
hors du cours.
Non, parce qu'à l'époque, je me souviens que la femme d'Henri voulait qu'Henri s'émancipe justement et se différencie Yannick, parce qu'on était tous un peu admiratifs de notre grand frère. Et bon, il y a eu des petites phrases maladroites qui ont été lâchées par-ci par-là, mais au-delà de ça, on s'aimait tous beaucoup et il y avait des relations très fortes entre nous.
Mais quand même, Guy Forget, une petite question qui fâche. On n'a pas gagné Roland Garros depuis Noah en 83.
C'est vrai, oui, bien sûr.
Alors comment c'est possible ça? Ça va faire 35 ans, vous voyez, donc vous posez la question. Voyez, il y a un problème du tennis français quand même.
Vous savez, contrairement au golf, le tennis, quand on regarde finalement le palmarès des 15-20 dernières années, c'est trois joueurs qui sont partagés tous les trois du Grand Chelem. Mm-hmm. Federer, Nadal, Djokovic. Mm-hmm. je pourrais rajouter Murray et quelques exceptions, mais ces trois joueurs-là ont tout gagné et sont à eux trois le plus gros palmarès de l'histoire du jeu. C'est-à-dire que les plus grands, les joueurs les plus titrés de l'histoire du jeu jouent à la même époque. Alors vous allez me dire, ben oui, mais alors les Français, ben oui, ben les Français, quelque part, il leur reste des miettes derrière. Donc c'est dur un petit peu comme constat, parce que je crois qu'on a une génération aujourd'hui, même s'ils sont plutôt en fin de carrière, de Joe Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Gaël Monfils, Gilles Simon, qui ont été tous dans le top 10 en même temps là, c'est encore, ce qui est plutôt quelque chose de rarissime dans l'histoire du jeu. Ils ont eu devant eux ces joueurs-là. Donc voilà, c'est le constat effectivement est amer, mais il y a malgré tout eu des victoires des Master 1000, des finales de Grand Chelem, des victoires de Coupe Davis, mais on a récolté effectivement des miettes par rapport à ces joueurs.
Benjamin Vanatère, un mot sur cette non-performance, en tout cas, des Français à Roland-Garros. Oui, oui. Enfin...
Bah, je dirais que Guy a dit l'essentiel. C'est vrai que il y a trois joueurs hors normes. Alors, il y a toujours eu des joueurs hors normes, des Sampras, des Agassi, oui. Mais trois aussi forts en même temps, c'est juste fou.
Enfin, à l'époque, mais, de Noah, mais il y avait quand même, il y avait Borg, McEnroe, puis c'était réglé quand même, Willendel. Voilà. Donc, vous voyez, à un moment, on peut comparer un peu les choses.
Oui, mais quand Borg a gagné tout, je l'aime, Federer en a gagné 20 depuis.
Oui, ça, c'est vrai.
Et McEnroe a gagné 6, Nadal est à 17. Oui, le troisième, c'est en a gagné 9 et Djokovic est à 15.
Je me souviens, gamin, on savait que ça allait être Borg, Lendl, Borg, McEnroe, la finale c'était à peu près évident, vous voyez, il y avait des surprises parfois, mais quand même c'était un peu la même chose finalement.
Non, c'est... Ouais, enfin le tennis c'est, je pense, plus compétitif.
A beaucoup changé aujourd'hui.
Il y a beaucoup plus de joueurs qui sont très 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 forts. Peut-être, hein, mais c'est une hypothèse, que sur la préparation mentale de la dernière marche, on peut peut-être s'améliorer un petit peu. Quand on voit justement la résilience d'un Nadal ou d'un Djokovic dans des matchs où, objectivement, on se dit ils sont très très mal embarqués et ils retournent la situation, et pas une fois, 10 fois dans l'année, peut-être que là-dessus on peut progresser un peu.
Oui, vous avez été capitaine de l'équipe de France, non, mais bien sûr, en tant que manager,
c'est un très bon point, mais je suis tout à fait d'accord, je partage l'analyse. Mais quelque part, cette résilience, je veux dire, ramener ça uniquement au travail et à la préparation mentale, ça voudrait dire finalement qu'avec un bon préparateur mental, on va gagner des grands chelems. Et moi, j'aime pas trop cette image parce que c'est un peu réducteur. C'est-à-dire que, bien sûr que Nadal, Federer et Djokovic sont les plus forts mentalement. Ils ont peut-être fait un travail, mais beaucoup de joueurs font un travail mental aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait qu'à 4 partout, quand vous êtes à 40 ans, il y a un type qui à un moment donné sort un point incroyable qui va blanchir la ligne? C'est Pelé dans le football, c'est Jordan dans le basket, c'est Zidane dans le football, c'est Mozart dans la musique. Et ça, je crois qu'on l'a au fond de soi, ou on ne l'a pas malheureusement, ce dernier petit...
Guy, reparlons de vous. Les années 80 sont effectivement une promesse, mais on sent que vous n'arrivez pas à passer une marche. Et puis soudain, vous y arrivez. 91, vous êtes quatrième joueur à l'ATP, prouesse dans le top 5, la Coupe Davis, évidemment la Coupe Davis, Paris-Bercy. Qu'est-ce qui fait que vous, à un moment donné, vous basculez dans votre tête?
Mais moi, j'ai fait ce travail mental. J'ai travaillé justement avec des spécialistes et ça m'a permis justement de passer de la 25e place à la 4e, qui a été mon meilleur classement à une période donnée. Mais au-delà de ça, entre même le 4e et le numéro 1, il y a encore un gap qui est important. Pour être numéro 1, il faut être bon toutes les semaines. Une espèce de constance permanente. Moi, j'ai très bien joué pendant 3 ans, on va dire. Puis après, je me suis blessé. J'ai dû arrêter, mais j'ai pu avoir effectivement cette confiance et cette expertise dès mes plus jeunes années. Je pense que j'aurais peut-être pu gagner 1, 2 ou 3 tournois du Grand Chelem, mes années étaient comptées. C'était difficile, mais c'est la mère constat, je veux dire, du tennis et du sport de haut niveau. Il y a des joueurs qui ont ce petit truc en plus et que moi, malheureusement, je n'ai pas eu.
Allez, 18h33 sur Inter, c'est l'heure de l'orchestre, emmené ce soir par Balthazar, le titre joué Wrong Vibration. Ainsi soit-il.
Don't let the wrong vibration.
L'œil du tigre.
Dans tous les moments difficiles aujourd'hui, et Dieu sait si j'en ai traversé, vous avez toujours été là, donc c'est surtout grâce à vous que j'ai gagné. Merci.
Philippe Collin.
Superbe Guy Forget, ovationné par 16 000 spectateurs et vainqueur pour la première fois de sa carrière de l'Open de Bercy, le cinquième tournoi du monde. Au terme d'une finale qui a duré près de 4 heures, Forget, numéro 6 à l'ATP, s'est imposé en 5-7 à l'américain Pete Sampras, 7e joueur mondial. Puissant serveur, terrible coup droit, habile volleyeur.
Sur France Inter.
Le 28 octobre 1991, Guy Forget remporte en effet le tournoi de Paris-Bercy contre Pete Sampras, une étape essentielle pour entrer dans la mémoire collective du sport français. Et puis, dans la foulée, quelques semaines plus tard, le 1er décembre précisément, comme une apothéose à cette année 1991, où Guy Forget marche sur l'eau, un dimanche, il transcende son destin et pourtant, le vendredi, tout avait très mal commencé.
Lui, il a rempli son contrat. André Agassi a muselé totalement Guy Forget. En puissance et en tactique, le numéro 2 américain a dominé le numéro 1 français en 4 manches. Vendredi, à 17h30, à l'issue du premier simple, les États-Unis affichent encore 100% de confiance. Et puis, venu d'un autre monde, le nouveau Lecomte, imaginé, soutenu, conseillé par son capitaine Yannick Noah. Lecomte, 158e mondial, atomise le numéro 1 américain et meilleur joueur actuel du circuit professionnel, totalement déréglé. La confiance change alors de camp. Vendredi, 20h05, balle de match. France, États-Unis, un partout. Samedi, encore Lecomte, encore Forget, réunis pour le double face à la paire redoutée Flack-Seguzo. La confiance ne change plus de camp. Les Américains sonnés sont battus en 4 manches. La France mène 2-1. Le dimanche promet donc d'être exceptionnel. Pendant que Noah prie et pendant qu'Agassi attend son duel avec Lecomte, Sampras bataille avec Forget. Le Français, galvanisé par sa victoire aux côtés de Lecomte, retrouve imagination, audace, ressources mentales. Il inflige à Pete Sampras sa deuxième défaite en finale de Coupe Davis. La France bat les États-Unis 3-1. Agassi ne jouera pas contre Lecomte. La confiance restée dans le camp français s'est transformée en délire.
Guy Forget, tout le monde se souvient de cette victoire. Même ceux qui n'aiment pas le sport, on s'en souvient de cette victoire en Coupe Davis en 91. C'est vous qui offrez le point de la victoire à la France. On se souvient de vous qui tombe comme ça sur le court au moment de la balle de match. Qu'est-ce que vous gardez en tête, Guy, de ce week-end-là, vous, ce soir-là?
Merci d'ailleurs pour le petit solo de guitare de Jimi Hendrix en même temps, j'aime beaucoup. Hein. Je sais pas si c'était fait pour moi, mais j'apprécie.
C'est pour vous.
Non, bah beaucoup d'émotions parce que bon, ça faisait je crois 59 ans qu'on n'avait pas gagné, la France n'avait pas gagné la Coupe Davis.
60 ans absolument.
Bon, quelque part on a marché à nouveau sur les pas des fameux mousquetaires, Henri Cochet, Jean Borotra, Jacques Brugnon et René Lacoste bien sûr. D'ailleurs Jean Borotra était là avec nous, célébré dans les vestiaires à ce moment-là, donc. Yannick est notre capitaine, on lui devait tellement, c'était le premier, je l'ai dit, qui avait ouvert des portes en gagnant Roland-Garros, c'était notre chef de file, et puis cette espèce de communion avec le public que l'on ne retrouve que dans des rencontres comme celle-là, des rencontres d'équipe. Je crois qu'on a une culture de la Coupe Davis très forte dans notre pays, et voilà, c'est des rêves de gamins pour chacun d'entre nous qui sont réalisés en l'espace d'un coup de raquette, parce que on était dans le rêve, on va peut-être le faire, on va y arriver, c'est possible, et puis tout d'un coup, avec un petit coup droit dans un cours qui était ouvert parce que Sampras était tombé par terre, ouais. On dit ça y est, on l'a fait, quoi.
J'ai revu les images, Guy, et au moment du service sur la balle de match, Noah vous dit un truc. Et vous acquiescez, vous dites oui, je fais ça.
Oui, je vous souviens très bien, mais parce que vous savez quand on joue un point important au tennis, ouais. On se dit toujours lorsque l'on sert, bon, est-ce que je sers à droite, est-ce que je sers à gauche, est-ce que je tente l'ace, est-ce que je fais service volé, est-ce que je sers sur le corps, est-ce que je sers à plaque de l'effet. Et je me souviens d'un article que j'avais lu d'ailleurs de Yannick Noah lorsqu'il avait battu Mats Wilander à Roland Garros, qui s'était posé les mêmes questions. Et j'avais aimé dans cet article, il avait dit bon, plutôt de me prendre la tête, je vais servir, c'est mon meilleur coup de service sur le coup faible de mon adversaire, c'est le coup droit. Et il sert sur le coup de Mats Wilander qui rate le retour. Je sais tes matchs, Noah gagne. Yannick Noah gagne Roland Garros. Et j'ai pensé à cette phrase à ce moment-là, je sais pas pourquoi. Et je le vois, il serre les poings et je pense à cette phrase. Et je me dis, et je le regarde en disant, t'inquiète, je sais ce que je vais faire. Mon meilleur coup, c'est le service. Le moins bon coup de Sampras, c'est le revers. Je vais faire servir sur son revers et on va voir ce qui va se passer. Bon, la balle revient, je fais une bonne volée croisée, et puis bon, la suite, on la connaît, mais à ce moment-là, c'était bien d'avoir finalement une image forte, une image positive, une image de victoire, le doute étant effectivement ce que l'on redoute tous dans un match de tennis, là, il n'y a pas de place au doute. Je vais faire ça, et je sais que je vais, en faisant ça, j'ai une bonne chance de l'emporter.
Benjamin Badinter, je crois que vous êtes directeur de la publication de Le Tennis Magazine. Quel souvenir vous avez-vous de ce moment-là, en tant qu'amateur de tennis, un moment incroyable dans la mémoire des Français?
Ah, c'était réel. C'est un week-end fabuleux, comme on en vit hélas trop peu.
Oui.
C'est vrai que les Américains étaient ultra favoris. Sampras Agassi, sur le papier, c'était le top. Mais on sentait monter tout de même, alors je n'allais pas dire qu'on pensait qu'on allait gagner, soyons pas hypocrites, mais un espoir qu'il allait probablement se passer quelque chose. Mais moi, j'ai une question pour Guy. J'aimerais savoir ce que Yannick Noah vous a dit avant d'y aller dans le dernier match. Qu'est-ce qu'il vous dit dans le vestiaire avant de monter sur le court ?
C'est il y a fort longtemps, mais Yannick a toujours un discours extrêmement positif, donc il nous galvanisait, et en même temps, comme il a fait du yoga, et il sait que c'est important d'être serein, il arrive à nous calmer, c'est-à-dire en même temps nous pousser et à nous calmer. Je vous ai dans un moment du match face à Pete Sampras, où j'arrivais plus à prendre son service, il voulait que je sois encore plus offensif que je ne l'étais. Et quand vous pratiquez un tennis comme celui-là, si vous prenez trop de risques, vous faites des fautes. Et je me souviens qu'à un moment donné, il était un peu excédé, ça faisait 2-3 changements de côté, que, à son avis, j'étais pas encore assez offensif sur mes jeux de retour. Il est excédé, il me regarde, et il me dit, écoute Guy, j'ai pas le te le dire 3 fois, d'accord, de suite, ok? Maintenant, soit tu y vas, et tu te gourres, et tu rates, mais tu me repasses pas devant moi, comme ça, en étant comme ça, tu y vas, maintenant, je veux plus le savoir. Et je sens qu'il est agacé, et à la limite, à ce moment-là, ça fait une espèce d'électrochoc, parce que je sens qu'il est frustré, alors que lui, qui est toujours maître de ses émotions, là, il est en train de se frustrer, je me dis, s'il le prend comme ça, c'est que vraiment, c'est peut-être là la clé du match. Et je me souviens, je repars jouer à ce moment-là, et je prends le service de Pete Sampras quelques instants plus tard. Et puis, bien sûr, ça a été la clé un petit peu du match. Mais c'est ça le rôle du capitaine, justement, après. C'est de comprendre la sensibilité des joueurs et de donner le bon conseil au bon moment.
Dans son humeur, exactement.
Et il avait une telle expertise, Yannick, et il connaissait tellement bien ces moments-là. Que bon, le choix était bien sûr judicieux.
Benjamin, on a à peu près le même âge. Moi, quand j'étais gamin, c'était une réjouissance de voir Roland Garros arriver. J'étais très excité. Je le suis un peu moins aujourd'hui, je ne vais pas me cacher de ça, je le dis, parce que je trouve que le tennis est peut-être moins alléchant que le tennis pratiqué par Guy Forget. Voilà, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça, Benjamin Badinter? Vous êtes heureux que Roland Garros arrive la semaine prochaine?
Ah, moi, c'est le bonheur.
Voilà, non, très bien.
En toute sincérité, moi, j'ai un regret. C'est que. Il y a eu un retour de bâton trop fort par rapport à ce que faisaient Connors et McEnroe sur le court et certains autres qui ont été trop loin et qui fait qu'on a instauré un code de conduite qui fait qu'aujourd'hui on ne peut plus rien faire.
C'est verrouillé.
Or, bon, le tennis, c'est aussi un show. Il y a des gens qui viennent qui ne sont pas des spécialistes de la deuxième balle liftée et qui ont envie de voir un spectacle. Et qui ont envie de voir des caractères pouvoir s'exprimer. Alors, sans aller trop loin comme peut le faire Kyrgios, c'est un autre sujet. Mais tout de même, là, on a l'impression que le premier qui lève le doigt, tac, il est sanctionné. Je suis pas sûr que ce soit bon pour l'intérêt du sport.
Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, on peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Il y a deux facteurs, finalement. Il y a effectivement ce code de conduite qui est trop sévère, et il y a aussi un sport qui est devenu ultra physique, ultra violent, ce qui a imposé en quelque sorte aux joueurs à un moment donné d'être beaucoup plus concentrés et de pas se disperser. Ilina Staz, que vous avez sans doute bien connu, Jimmy Connors, Yannick, même le premier, étaient des joueurs qui parfois s'autorisaient de plaisanter avec le public, alors qu'ils étaient tombés par terre, de rire en changeant leur chemise, montrant leurs muscles et ça, les fans et les gens au premier rang dans les loges adoraient justement cette espèce d'échange. Aujourd'hui, il n'existe plus cet échange-là.
Jeudi à Rome, Nick Kyrgios, le joueur grec, pète un câble, il pète sa raquette par terre, il jette une chaise, tout le monde s'est offusqué, quoi, c'est un tueur d'enfants, faut arrêter. En même temps, c'est la vie, quoi. Le mec, il pète un câble, c'est pas très grave.
Voilà, mais alors voilà, on va revenir sur cet incident qui qui pour moi est pas gravissime. C'était pas gravissime dans les faits. Voilà. Ce qui est gravissime par contre, et c'est là où à mon avis il est hyper maladroit, c'est que McEnroe, lorsqu'il cassait sa raquette et qu'il cassait ses bouteilles et qu'il s'en prenait même avec virulence à certains spectateurs, il continuait le match, il voulait gagner.
Oui, c'est vrai.
Kyrgios, il met la raquette dans son sac et il s'en va. Il quitte le court.
C'est-à-dire
qu'il démissionne. Et aujourd'hui, c'est pas vraiment une image que l'on veut montrer à notre jeunesse. C'est-à-dire quand c'est compliqué, qu'on est contrarié, on arrête, on s'en va. Voilà, donc Kyrgios qui a un talent énorme. Moi, je souhaite qu'il continue justement d'être comme il l'est sur le terrain. C'est ça, c'est la cuillère, c'est ses coups entre les jambes, ses facéties, même ses jets de raquettes. Pourquoi pas? Il sera sanctionné financièrement, mais il peut l'assumer. Mais derrière, qu'il aille au bout de ses matchs et qu'il gagne, surtout qu'il gagne, parce qu'il a, ce garçon, un potentiel incroyable. Et aujourd'hui, on a besoin effectivement de fortes personnalités dans notre sport.
Alors Guy, vous dirigez aujourd'hui ce tournoi de Roland-Garros, vous êtes le directeur depuis 2016. Qu'est-ce que vous voulez insuffler à ce tournoi? Quelle est la vision de Roland-Garros selon Guy Forget?
Bah écoutez, déjà, on ne change pas une tactique qui gagne. Donc on a la chance de diriger un tournoi comme Roland-Garros, qui est un monument du tennis, qui est le champion du monde sur terre battue, qui est un tournoi qui a une histoire, qui a des racines très fortes avec ce court central qui a été construit en 1928 pour les mousquetaires, qui avait battu les Américains à Philadelphie. On se doit de le moderniser, mais tout en préservant effectivement ce qui fait son unicité, ce charme. Et je crois qu'avec ce nouveau stade que l'on va présenter à notre public, là, dans quelques jours, le pari est en passe d'être réussi.
Simone Mathieu, excellent choix. Hein, on a oublié qui est Simone Mathieu, mais une grande résistance sous l'occupation. Double vainqueur de Roland-Garros 38-39. C'est très bien de remettre cette femme au goût du jour, quand même. Hein.
Oui, parce que bravo. Effectivement, au-delà d'être une immense championne, c'est une femme qui a, de par sa personnalité, son courage, justement, s'est engagée dans le combat et rentrer avec le général de Gaulle dans Paris pour libérer en quelque sorte la France. Donc oui, c'était assez symbolique finalement de donner à ce cours magnifique justement le nom de Simone Mathieu.
Extraordinaire. Benjamin, votre père, Robert Badinter, est un grand passionné de tennis.
Absolument.
Et vous aviez des souvenirs avec lui, vous en parlez en hors micro tout à l'heure, de gamin allant à Roland-Garros. C'est important pour vous ça aussi?
Très important. Quand on avait le bonheur de bien travailler à l'école, notre père... signe de reconnaissance, on disait bon, alors exceptionnellement on va aller à Roland-Garros, et c'est vrai que c'est là où en 1980 j'ai eu ce choc psychologique, parce que j'ai vu un grand Suédois blond rentrer sur le court qui s'appelait Björn Borg en finale contre Girolaitis, et que c'est vrai que c'est une image qui restera ancrée en moi à jamais. Mais je vais vous livrer une petite anecdote.
Ah.
Mon père était aussi l'avocat de Jimmy Connors au moment où la fédération ne voulait pas qu'il joue à Roland-Garros, et il nous a souvent parlé de lui. Et c'est vrai que ensuite, en voyant jouer Jimmy à Roland-Garros, on avait à la fois beaucoup de tendresse parce que voilà, il connaissait la famille, et en même temps une certaine lucidité sur le caractère du garçon qui était pour le moins compliqué, on va dire. mais voilà, donc le tennis a toujours fait partie de notre existence. Ouais.
Jean de Lavagny, qui est ministre socialiste sous Jospin, a souvent raconté que Mitterrand adorait le tennis, mais qu'il était assez mauvais. Très bon, pas très bon tennisman, mais que tous les gens autour de lui, quand il jouait au tennis, faisaient exprès de perdre pour rassurer un peu François Mitterrand. Est-ce que vous savez si Robert Badinter a affronté Mitterrand au tennis ou pas?
Alors, je pense qu'ils ont joué ensemble. C'est arrivé. Je ne donnerai pas les résultats par discrétion. Mais oui, c'est arrivé qu'ils échangent quelques balles ensemble.
D'accord, pas de résultats donc.
Mais je vais vous dire, moi-même jeune, j'ai eu ce privilège de taper la balle avec François Mitterrand. Ah oui. Ouais.
Il était très mauvais ou pas alors? Parce que...
Non, mais il avait une force mentale exceptionnelle. Ah oui. On voyait bien le trait de caractère de l'homme à cela. Et le tennis est révélateur de la personnalité de tous. Particulièrement quand les parties deviennent serrées. Et ben vous voyez qui est colérique, qui est courageux, qui va commencer à tricher, qui est fair-play. C'est très très intéressant psychologiquement.
Ouais, tennis est révélateur de ça, Guy, ça vous êtes d'accord?
Oui, c'est très vrai d'ailleurs. Lorsque avec des copains on regarde un jeune joueur que l'on ne connaît pas, au bout de quelques jeux, voire d'un set, lorsque c'est disputé, on arrive assez bien à se faire une idée de la personnalité du joueur. Et on peut plus se cacher quand on joue au tennis. Et c'est assez marrant, donc on va pas en dire plus, mais parfois c'est vrai que c'est intéressant. Et pour en revenir justement aux hommes politiques, dans l'histoire il y a beaucoup de joueurs hein, qui ont d'hommes politiques qui ont été de brillants joueurs de tennis. Je pense à Jean-Jacques Chaban-Delmas,
très haut niveau hein, Chaban-Delmas,
voilà, exactement. Qui a parti même à Roland-Garros, j'ai vu ça tout à l'heure sur internet, qui a joué en double et en double mixte à Roland-Garros. Voilà, on sait que notre président actuel Emmanuel Macron aime beaucoup le tennis et joue un petit classement. Je crois que Valéry Giscard d'Estaing avait joué aussi un petit peu. Donc voilà, c'est un sport qui est pratiqué par un grand nombre.
Guy, une des grandes animations de cette édition 2019, c'est Roger Federer qui va être là. Oui. 38 ans, quel champion incroyable de voir revenir Federer à Roland-Garros cette année. Vous êtes très content, j'imagine.
Oui, bien sûr. Alors c'est presque réducteur, je trouve, de donner son âge comme si c'était un espèce de papy qui aujourd'hui venait faire ses adieux.
C'est la performance.
Il est numéro 3 mondial aujourd'hui.
C'est la performance, Guy.
Moi, je le vois vraiment comme un outsider potentiel. Aujourd'hui, objectivement, lorsque l'on voit Rafael Nadal et Novak Djokovic, qui sont à mon avis probablement les deux favoris du tournoi, qui vient juste derrière, probablement Roger Federer avec Dominic Thiem. Donc il est là, donc son classement, je veux dire aujourd'hui, il n'est pas uniquement dû à son palmarès et à la crainte. Non, il l'a mérité sur le terrain, dans tous les tournois auxquels il a participé. Il a une telle connaissance du jeu, expertise de la terre battue, que je pense que cette année on va le retrouver probablement en quart de finale et pourquoi pas plus loin dans notre tournoi. En tout cas, je pense que tous les fans de Roger, et Dieu sait s'ils sont nombreux en France, aimeraient le voir affronter à nouveau Rafael Nadal.
Benjamin, un mot rapide sur Federer?
Oh, Federer, c'est...
Nadal vient de gagner à Rome, je vous le dis. Il vient de gagner le tournoi de Rome. Rafael Nadal. Voilà.
Ouais. Moi, je pense que c'est le favori pour Roland Garros.
Nadal.
Ouais, parce que je pense qu'au meilleur des 5 manches sur terre battue, je rappelle, 86 victoires, 2 défaites.
Au moins, ça pose le truc.
Maintenant, Roger, c'est vrai que c'est fantastique pour le tournoi que Federer soit de retour. Federer est un compétiteur comme Nadal et Djokovic exceptionnel. Croyez-moi, s'il y a une possibilité de se glisser, il n'hésitera pas. Et il y a un point que nous allons scruter tous ensemble, c'est le tableau au moment du tirage au sort.
Ça, c'est sûr.
Là, on en saura beaucoup plus sur les chances des uns et des autres.
Ça, c'est sûr. Merci à vous deux d'être venus ce soir. Roland Garros, ça commence le week-end prochain. Bon tournoi, monsieur le directeur.
Merci.
Et en complément de ce tournoi, lisez Tennis Magazine, titre culte en France, avec une nouvelle formule devenue aujourd'hui un bimestriel, numéro qui vient de sortir à l'occasion de Roland, avec Djokovic en couverture. Merci beaucoup, Benjamin Rintel, d'être avec nous ce soir.
Merci bien.
Merci. Et vous ne quittez pas l'écoute, car voici maintenant le Give Me Five de Joy Raffin.
L'œil du tigre.
Rebonsoir Joy.
Rebonsoir Colin, rebonsoir à tous.
Alors que trouve-t-on dans ton Give Me Five ce soir?
Eh bien on commence avec un big up. Un big up à Aouet, Gebremedine, Ander Meskel.
Et
voilà, tu ne sais pas qui c'est, et c'est normal. Normal mais dommage. Parce que c'est une jolie histoire qui nous est racontée par Lemonde.fr cette semaine. Aouet, Gebremedine, Ander Meskel, 27 ans.
Pas facile à dire ce nom.
Mais on va l'appeler Aouet tout le reste de la chronique.
C'est bien, Aouet, ok.
Donc Aouet, 27 ans, originaire d'Érythrée, participe pour la première fois au Giro. Voilà, donc l'une des courses cyclistes les plus mythiques au monde.
Le Tour d'Italie.
Alors voilà, actuellement Aouet est classé dernier de ce 102e Tour d'Italie, comme tu viens de le dire. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est son parcours. Réfugié en Suède, vendeur de canettes, c'est en allant à l'école à vélo, à l'époque, voilà, c'était à 12 km quand même de son village, que naît son amour de la petite reine et de petits concours en championnat du monde. Aouet se fait remarquer. Et plutôt que de rentrer en Érythrée, Aouet se réfugie en Suède, où vivent de nombreux compatriotes, et il reste cloîtré dans la maison d'un ami, parce que vraiment, faut imaginer ça quand même, il a peur d'être expulsé en permanence, et donc en attendant que l'office des migrations lui accorde l'asile, voilà, il l'a caché, tout ça en Suède, il reste là-bas. Alors dans les compétitions non officielles, l'ancien réfugié est très fier de représenter la Suède, ce pays qu'il accueille, où il vit depuis 6 ans maintenant, dans la ville de, pas facile non plus à prononcer, Jönköping, je pense, je ne sais pas. Mais en attendant de décrocher le sésame, Aouet court sous les couleurs de l'Érythrée. Alors l'équipe ne participera pas au Tour de France 2019, mais espère y être invitée l'année prochaine. C'est son rêve et voilà, nous c'est tout ce qu'on lui souhaite.
Mais oui, un très joli portrait d'Aouet à lire sur le site du Monde, effectivement. La suite, Joy.
Alors chaque année, le mois de mai, c'est celui d'un match. Un gros match. Une bataille. Une bataille entre deux dictionnaires. Le Petit Larousse illustré et le Robert illustré. Voilà. Et attention, à chaque dico, sa réputation. Le Petit Larousse illustré est un dictionnaire familial, très prisé, notamment des collégiens et des lycéens. Le Robert illustré, lui, est davantage tout public, on va dire. Et les lexicographes du Larousse se montrent plus conservateurs que ceux du Robert, pionnier du verlan et très proche des usages, vous savez, de la langue française. Voilà, un parler à courant, quoi. Alors que chez Larousse, on ne veut pas céder aux effets de mode. Et si je vous en parle cette semaine, c'est parce que les footballeurs Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ont intégré le Robert Illustré 2020, dont la sortie en librairie est parue cette semaine. Alors ils rejoignent les anciennes gloires de l'équipe de France, Coppa, Platini, Zidane ou encore Maradona, Beckham, sans oublier ceux qui jouent toujours, eux, Messi et Ronaldo. Incroyable. Puis alors un truc, encore une fois, complètement dingue. À 20 ans, Kylian Mbappé, le buteur précoce du PSG, est le plus jeune footballeur à intégrer un dictionnaire.
Toujours en temps de record, Kylian.
Hein. Ah, Kylian, toujours plus haut, toujours plus fort.
À 20 ans dans le dico. Et sinon, un ballon de foot a fait parler de lui, mais pour son grand âge, au contraire, lui.
C'est ça. Le 21 avril dernier, le Musée national du sport a acquis le ballon en provenance du club de la jeunesse sportive de Saint-Jean-Beaulieu, qui avait été décoré par Jean Cocteau. Eh oui, en 1961. Alors on sait, Cocteau, c'était un génie artistique, protéiforme du XXe siècle, voilà, qui s'intéressait au cinéma, à la peinture, au dessin, au théâtre, à la littérature, mais aussi au sport. Alors on connaissait son intérêt, vous savez, pour la boxe, puisqu'il fut le manager, on en a déjà parlé, du champion américain Panama Hal Brown, mais son rapport avec le monde du sport au sens vraiment large est encore à découvrir, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'aller voir et d'aller visiter le Musée national du sport.
C'est à Nice, c'est ça, je crois.
Exactement.
À Nice, sur la Côte d'Azur. Quoi d'autre, Joy, cette semaine?
Alors, visiblement, tout le monde a voulu fêter la victoire de Rennes contre Paris en Coupe de France. Tout le monde. Animaux compris. Animaux compris, puisque lundi soir, figurez-vous que les policiers bretons ont découvert un taureau. Un taureau tranquille sur les terrains d'entraînement du Stade Rennais. L'animal avait été signalé aux autorités après avoir été aperçu sur la route. Et alors ils ont trouvé la bête sur la pelouse des Rouges et Noirs. La police a suivi la trace du bovin aux côtés des pompiers avant de l'enfermer dans un champ en utilisant quoi ? Des buts amovibles, vous savez, pour lui barrer la route. Voilà, donc sympa. Le taureau, devenu la nouvelle mascotte du club, n'a pas fait de blessés et n'a pas abîmé la pelouse. Ils sont forts, ces Rennais.
Et oui. Et pour finir, Joy, ton conseil culturel du jour, évidemment.
Eh bien, il s'agit d'un roman graphique super de Chloé. Alors, je ne sais pas si on dit Vary ou Wari, qui s'appelle Saison des roses et qui a paru à tes éditions préférées, Colin. Je sais que tu adores ce nom. Fleubleub.
Oui, on n'arrive pas trop à le dire. Fleubleub. Voilà.
Voilà.
Les éditions Fleubleub.
Exactement. Ça s'appelle donc Saison des roses. L'histoire, c'est celle, vraie de Chloé Wari qui décide, de se mettre au foot après avoir vu un documentaire et qui, dès lors, y consacre ses week-ends dans des tournois, des soirées, des entraînements. Donc, il y a des femmes de tous âges, de 16 à 35 ans. C'est vraiment une équipe qui est en plein essor. Et puis là, elle se rend compte des inégalités. Voilà, c'est une découverte pour elle en tout cas, entre les hommes et les femmes, les subventions drastiquement réduites, voilà, les pelouses qui ne sont pas les mêmes, les règles qui ne sont pas les mêmes, et Chloé a une solution, voilà, elle se dit qu'elle peut peut-être sauver son équipe de filles, les roses de Rosini, je ne vous en dis pas plus, lisez. Et vous saurez.
Alors, Saison des roses, c'est de Chloé Wari qui est apparu aux éditions Fleubleu.
Fleubleu.
Merci beaucoup, Joy, à la semaine prochaine.
De rien, bye.
Et voilà, cette 37e émission de notre saison 4 a été coachée, bien sûr, par l'incontournable H2M Henri Marc Mutel. Merci Marco. Assisté ce soir à la technique de U2 Diego Aclopez. Quel nom merveilleux. Merci à lui. Merci à toute l'équipe de l'œil du tigre. Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi, Thierry Dupin pour les Scuds. On se retrouve la semaine prochaine avec l'exploration d'un nouveau sport qui pose beaucoup de questions, le MMA. Sport de combat assez violent, mais plébiscité dans le monde entier. On tentera de sonder ce que dit le MMA de notre société. D'ici là, passez une excellente soirée, une excellente semaine. On vous attend dimanche prochain dans l'œil du tigre sur Inter à 18h. Salut et fraternité.